jusqu'aux portes de Rouen.
Sur le DAB+.
Remember the name.
their ducks. So a train set the night on fire. Smelled the spring on the smoky wing.
Dirty old town, dirty old town.
I'm gonna make me a Gucci pass.
Shining steel, temper in a fire,
will chop you down like an old tree.
Dirty old town, dirty old town.
I met my love,
I met my love
by the gasworks wall,
by the gasworks wall.
Dream the dream by the old canal. I kiss my girl,
I kiss my girl
by the factory wall,
by the factory wall.
Dirty old town, dirty old.
RFI 7h à Paris, sans cœur, Antoine Universel.
Andréane Mélard.
RFI Matin commence. Bonjour tout le monde, bienvenue au programme. Le Moyen-Orient, Israël et l'Iran se frappent à nouveau mutuellement ces dernières heures. C'est une première depuis le cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril dernier. On en parle dans votre journal, Julien Coquel-Rohem. Bonjour Julien.
Bonjour Andréane. À la une, en effet, de nouveaux tirs de missiles iraniens en direction d'Israël ce matin, après de premières frappes hier soir et la réponse israélienne dans la nuit. Une quinzaine de sites militaires iraniens bombardés par Israël. Les gardiens de la révolution menacent d'aller plus loin. On appelle Téhéran dans un instant. L'actualité ce matin, c'est aussi l'Arménie, où Nicole Pachinian revendique une victoire historique aux élections législatives. En Corée du Nord, la visite de Xi Jinping pour louer l'amitié invincible entre Pyongyang et la Chine. Dans ce journal également, un nouveau verdict à Kinshasa dans le procès du double assassinat d'experts des Nations Unies en 2017. La France et la colère autour de l'affaire Liana. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, met les procureurs et les magistrats sous pression. Et puis du tennis et la victoire d'Alexander Zverev qui s'offre son premier grand chelem. Il l'attendait depuis longtemps.
C'est une première depuis le 8 avril et le début du cessez-le-feu.
Deux premières frappes iraniennes hier soir sur Israël, des tirs de missiles, tous interceptés en représailles selon Téhéran, au bombardement israélien qui a fait 2 morts et 20 blessés hier dans la banlieue sud de Beyrouth au Liban. La région semble depuis se rapprocher d'heure en heure d'une nouvelle escalade. On vous retrouve à Téhéran, Siavosh Ghazi, bonjour. Israël a riposté cette nuit en frappant l'Iran et la République islamique a répondu il y a quelques minutes.
Ce matin, l'Iran a de nouveau riposté à la riposte israélienne. L'aviation israélienne a mené une série d'attaques contre Téhéran, Ispahan, Karaj, Kermanshah, la frontière avec l'Irak, ou encore Tabriz. Une quinzaine de frappes contre ces villes dans la partie ouest de l'Iran. Et donc, moins de 3 heures après, l'Iran a riposté à son tour en lançant des missiles contre le centre et le sud d'Israël, mais également une base militaire dans la région de Naplouse, dans le territoire occupé, donc qui a été visé selon les informations données par les médias iraniens. Donc une riposte iranienne qu'on attendait contre la riposte israélienne. Il peut y avoir d'autres frappes dans les heures qui viennent, puisque l'Iran avait mis en garde Israël mais aussi les États-Unis en disant que si jamais Israël ripostait, la riposte iranienne serait encore plus dure. Il y a aussi la possibilité de fermer le détroit d'Ormuz mais aussi le détroit de Bab el-Mandeb. Comme les Houthis au Yémen sont intervenus en lançant un missile contre Israël, il y a ce qu'on appelle l'unité des terres entre l'Iran, le Yémen, l'Irak avec les milices chiites, le Liban avec le Hezbollah ou encore les groupes palestiniens à Gaza mais aussi dans les territoires occupés. L'unité des terres, l'unité des fronts, un terme qui revient de plus en plus dans la bouche des responsables iraniens mais aussi de tous ces groupes.
Siavosh Ghazi, merci. La riposte israélienne contre l'Iran que Donald Trump a tenté d'éviter. Le média américain Axios affirme qu'il a appelé hier Benjamin Netanyahou pour tenter de le dissuader de nouvelles frappes sur le pays. L'Irak et la Syrie annoncent la fermeture de leurs espaces aériens. L'Iran ferme aussi le sien en partie dans l'ouest du pays et suspend les vols à l'aéroport de Téhéran. En Israël, ce sont les écoles qui resteront fermées aujourd'hui. La situation dans la région à suivre minute par minute dans notre direct sur notre site RFI.fr.
9h04 à Yerevan, c'était un scrutin crucial pour l'Arménie lors du verdict après les législatives d'hier.
Les premières depuis la défaite du pays dans la guerre contre l'Azerbaïdjan en 2020 et la perte du Haut-Karabakh en 2023, elles avaient valeur de test pour Nicole Pachinian. Au pouvoir depuis 8 ans, le Premier ministre et son parti Contrat Civil qui recueille au dernier décompte des voix moins de 51% des suffrages. Bonjour Daniel Valo.
Bonjour.
En direct de Yerevan pour RFI, Nicole Pachinian revendique la victoire, mais elle n'est pas encore totalement confirmée.
Oui, le Premier ministre arménien a revendiqué la victoire dans le courant de la nuit sur la base de résultats très partiel. Son parti était alors largement en tête avec 56% des voix, mais dans le courant de la nuit, cette avance s'est réduite et selon le dernier décompte rendu public par la commission électorale, le Contrat Civil, le parti du Premier ministre arménien, est toujours en tête, certes, mais de justesse. Le décompte des voix n'est pas terminé et à ce stade, ce serait une victoire, mais sur le fil du rasoir. Et ce résultat sera probablement contesté par l'opposition qui a dénoncé tout au long de la campagne les pressions judiciaires exercé à son encontre, à l'instar de Samvel Karapetian, le dirigeant du principal d'opposition qui est assigné à résidence. Cet homme d'affaires réputé proche de la Russie a obtenu avec sa formation Arménie Forte plus de 23% des voix, ce qui est beaucoup plus qu'anticipé. Samvel Karapetian qui s'est exprimé lui aussi dans le courant de la nuit pour dénoncer l'annonce prématurée à ses yeux de la victoire célébrée par Nicole Pachinian et ses partisans. Il va donc falloir attendre dans les prochaines heures les résultats définitifs. Une certitude, s'il emporte ces élections, Nicole Pachinian n'aura pas loin de là cette large victoire qu'il espérait et qu'il avait demandé à ses électeurs.
Daniel Valo, envoyé spécial de RFI à Yerevan en Arménie, merci beaucoup.
Dans l'actualité également, Julien, un déplacement rare pour Xi Jinping aujourd'hui.
Le président chinois qui voyage désormais peu à l'étranger est arrivé ce matin en Corée du Nord pour une visite de 2 jours. C'est la première depuis près de 7 ans. Bonjour Cléa Broderst.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Xi Jinping à Pyongyang pour des cérémonies et pour réaffirmer l'amitié entre les deux pays. Une rencontre qui doit aussi permettre à la Chine de réaffirmer son influence sur un allié devenu plus indépendant grâce à son rapprochement avec la Russie.
Oui, rarement un déplacement de Xi Jinping aura autant ressemblé à une opération de reconquête. Hein. Longtemps dépendante de la Chine, la Corée du Nord dispose aujourd'hui d'un nouveau partenariat, vous le disiez, de poids, la Russie. Et c'est vrai que depuis le début de la guerre en Ukraine, Kim Jong-un fournit des armes et des soldats à Moscou et en échange, il reçoit du pétrole, de l'aide économique et probablement certaines technologies militaires. Une relation qui donne davantage de marge de manœuvre à Pékin. Pardon. Pour Xi Jinping, l'enjeu est donc de rappeler que la Chine reste son soutien principal. Plus de 90% du commerce légal nord-coréen passe toujours par son grand voisin. Pékin peut offrir ce que Moscou peine à fournir, des débouchés économiques, du tourisme et une aide alimentaire essentielle. Et cette visite, c'est aussi un message adressé aux États-Unis et à leurs alliés. Et au-delà de la symbolique, Xi Jinping veut surtout rappeler à Kim Jong-un une réalité très simple. La Russie est un partenaire utile, mais la Chine demeure indispensable.
Cléa Broderst à Pékin pour RFI. Merci beaucoup.
Donc, c'était en mars 2017 en RDC, l'assassinat de 2 experts des Nations Unies.
L'Américain Michael Sharp et la Suédo-Chilienne Zaida Catalan avaient été tués alors qu'ils enquêtaient sur les violences dans la province du Kasaï central à la suite de l'insurrection de la milice Kamuinan Sapur réprimée par les forces de sécurité. Un feuilleton judiciaire de 4 ans s'est achevé ce week-end à Kinshasa avec le nouveau verdict de la haute cour militaire. Elle avait prononcé en première instance la peine de mort pour 49 accusés. Verdict contesté par le ministère public. La peine a été revue à la hausse en appel avec 54 condamnations à la peine capitale pour crime de guerre par meurtre. À Kinshasa, correspondance de Pascal Moulegouam.
Parmi les condamnés figurent plusieurs responsables de la milice Kamuinan Sapu, des exécutants ainsi que les colonels Jean Dédieu Mambouini, officier de l'armée congolaise. En première instance, les colonels Mambouini n'avaient été condamnés qu'à 10 ans de prison faute de preuves. En appel, la Haute Cour a affirmé qu'il avait piégé les experts et a porté sa peine à la mort. Selon l'arrêt, les experts de l'ONU, Michael Sharp et Zaïda Catalan, avaient été interceptés le 12 mars 2017 sur le pont d'une rivière proche du village Moyo Musila, où ils avaient été conduits avec leurs accompagnateurs congolais. Malgré leur identification comme experts, ils avaient été accusés d'être des traîtres, puis amenés dans la brousse où ils ont été exécutés par balle avant que la tête de la Suédoise ne soit tranchée. Certains accusés ont été condamnés pour leur rôle dans la planification, d'autres ont été formellement identifiés comme ayant influencé les assassins, d'autres encore ont directement exécuté ou participé de manière déterminante au double meurtre sur le terrain. Un verdict qui clôt l'affaire, mais qui est fortement critiqué par la Commission nationale des droits de l'homme, qui estime que les commanditaires hautement placés de ces doubles meurtres n'ont jamais été inquiétés. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI.
Et en République démocratique du Congo, le bilan de l'épidémie d'Ebola qui continue d'évoluer. Le dernier pointage des autorités ce dimanche fait état de 515 cas confirmés, dont 91 décès. 12 patients ont été déclarés guéris. La commissaire européenne à la coopération internationale, à l'aide humanitaire et à la réaction aux crises, Adjal Habib, était en visite hier dans l'est de la RDC, à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, épicentre de l'épidémie. Elle annonce 5 milliards d'euros d'aide supplémentaire, en plus des 15 déjà annoncés. Reportage sur place dans notre prochain Journal Afrique à 5h30, temps universel.
En France, la polémique toujours aussi vive autour de l'affaire Liana.
Du nom de cette fillette retrouvée morte jeudi dans le sud-ouest de la France, une marche blanche était organisée hier dans la commune où se sont déroulés les faits. Alors que les réactions se multiplient pour critiquer l'inaction de la justice, le principal suspect du meurtre de Liana était visé par plusieurs plaintes pour violences sexuelles sur mineurs. Le ministre Gérald Darmanin, critiqué pour le manque de moyens alloués à la justice, met lui-même sous pression la profession. Il convoque l'ensemble des procureurs généraux du pays ce matin et leur donne jusqu'au 14 juillet pour passer en revue les quelques 70 000 plaintes concernant des enfants. Il avait avant cela présenté ses excuses vendredi tout en menaçant de sanctions les magistrats en cas de manquement. Et cela fait réagir dans le secteur, Laurence Théo.
Il tient tout d'abord à faire part de la vive émotion de tous les procureurs concernant la mort tragique de la petite Liana. Si Frédéric Chevalier, président de la Conférence nationale des procureurs de la République, comprend la nécessité d'une enquête pour faire toute la lumière sur d'éventuels dysfonctionnements de la justice, il s'interroge sur le fait d'évoquer dans le même temps des sanctions.
La difficulté, c'est qu'après, je trouve que ça a des conséquences sur les raccourcis qui sont faits dorénavant, en disant que, finalement, et en gros, si un homme a pu tuer une petite jeune fille, en fait, c'est de la faute de la justice maintenant. Voilà. Donc on arrive à des raccourcis qui sont extrêmement regrettables, qui mettent en cause directement maintenant l'action des magistrats.
Frédéric Chevalier rappelle avec force l'engagement constant de ses collègues des tribunaux pour apporter les réponses judiciaires les plus adaptées.
Tout au long des journées, et les magistrats des parquets, les enquêteurs, les policiers, les gendarmes, ils se mettent entièrement à la disposition des victimes pour mener des enquêtes, pour interpeller, une fois qu'on a identifié, traduire les gens en justice pour qu'ils soient jugés.
Chaque année en France, 29 000 personnes sont mises en cause dans des affaires de violences sexuelles sur mineurs.
Laurence Théo, et concernant les manquements dans l'affaire Liana, une inspection de la justice, de la gendarmerie et de l'éducation nationale doit rendre ses conclusions sous 15 jours.
En France, toujours du tennis. Et le clap de fin pour Roland-Garros hier.
Après la victoire samedi de la Russe Mira Andreeva en finale dames, l'Allemand Alexander Zverev s'est imposé hier côté messieurs. Victoire en 5-7 face à Flavio Cobolli au terme de 4h16 de match. Et Zverev qui s'offre son premier titre du Grand Chelem après une longue attente. Esteban Mirales.
Alexander Zverev.
Depuis 2024, si on ne s'appelle pas Sinner ou Alcaraz, impossible de remporter.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me.
put your blame on me. Don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Pactif.
Notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion. Vous me suivez ?
Bon, je récapitule dans le calme.
Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9.
Enfin, j'espère que vous n'avez rien compris.
Alors, tu veux dire que tu espères que nous avons bien compris ?
Parfait, il n'a rien compris.
Shabba Quebe, yo, 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 yo.